Alors, l'idée, c'était, voilà, maintenant, si vous êtes d'accord, on prend trois paroles comme ça, trois questions, et elle peut répondre, et après, on prend de nouveau trois questions, et après, elle répondra. L'idée aussi qu'on discutait avant, bon, Corinne disait, voilà, j'ai besoin des 20 minutes, c'est les 20 minutes un peu à la genevoise, vous êtes très loin,
30, 30, j'allais dire.
30, mais c'était vraiment très, très important. Alors, l'idée qu'on discutait un peu, c'est qu'on a un peu envie de que les gens commencent à partir. Bon, les gens doivent partir, c'est clair, mais qu'on finisse ensemble pour après aller boire un verre, les gens qui sont envie de le faire. Quand vous êtes fatigué, vous nous dites, Juan, Corinne, on arrête ensemble. Si vous êtes d'accord avec cette histoire. J'espère que de temps en temps, les questions sont hyper importantes, très intéressantes. Aussi importante et intéressante que la conférence en soi. Alors, qui veut prendre la parole? Je prends. Il y a. Si ça va être possible aussi des femmes. Olivier. Michel. C'est tout des mecs. Bon. Ok. Il y a, pour le moment, il y a 1, 2, 3, 4, 5 prises de parole. Si je vois pas, 6 prises de parole. Donc, j'ai dit d'ailleurs, Olivier. Ok, on commence. S'il vous plaît, il y a 7 demandes de prises de parole. On est d'accord, on prend vraiment, essayer d'aller au centre, au essentiel. Michel.
Oui, moi, c'est un peu. Je vais essayer d'être le plus court possible en fonction de ce qui se passe, mais quand même, le terme d'effondrement me pose problème. C'est-à-dire que dans l'effondrement, on met un peu tout. Si on regarde le dictionnaire, c'est une chute, c'est etc. Pour moi, l'effondrement lié au problème climatique, c'est vraiment la disparition de l'espèce humaine sur Terre. Le reste, ça peut être des problèmes, ça peut être des crises, ça peut être la crise du pétrole, ça peut être le pic du pétrole, ça peut être des choses où il y a des survivants. Même Pablo Servigne, dans son bouquin, il parle bien de collapsologue, mais en fait, il donne le nombre de vivants, 1 milliard et 1,5 milliard, qu'il y aurait après l'effondrement. Il y a un petit problème. Pour moi, si on n'est pas clair sur cette question-là, on n'est pas clair sur l'analyse que l'on fait. Pour moi, l'effondrement, c'est la disparition de l'espèce humaine sur Terre. Je ne dis pas qu'elle est très probable, je dis qu'elle n'est pas impossible. Et par rapport à ça, je reviens sur le bouquin de Pablo Servigne. C'est vrai que ce qui m'a frappé dans ce bouquin, il parle de collapsologue, il parle d'effondrement, mais on ne sait pas très bien lequel. Et en d'autres, il ne fait aucun chapitre sur ce qui, pour moi, est le risque le plus grave, qui est la question climatique. Il n'y a pas de climat, il n'y a pas de chapitre là-dessus. Donc à partir de là, moi j'estime qu'effectivement, on est confronté à quelque chose de très très grave. Je ne sais pas jusqu'où on pourra mener la bataille, mais j'en viens, la deuxième partie de ce que je voulais dire, c'est l'explication. Pourquoi il y a un risque d'effondrement? Et il y a Servigne, il ne va pas beaucoup, mais il y a d'autres qui disent, effectivement, c'est le capitalisme qui est responsable. Et je crois que c'est juste. L'effondrement, la crise climatique, elle est très liée aux modifications que le capitalisme a introduit dans son fonctionnement en fonction d'un constat. Ce constat, c'est que la productivité du travail a tellement augmenté, ce que produisait en 1900 un ouvrier dans une usine, il le produit aujourd'hui qu'il produit en 24 heures, il le produit aujourd'hui en 1 heure. C'est-à-dire que pour le capitalisme, dont le but essentiel est de faire du profit, et que le profit vient de l'exploitation des travailleurs, il est clair qu'à partir du moment où un travailleur produit plus en peu de temps, il faut l'exploiter pour l'exploiter de la même manière, en ayant une augmentation de la production, en produisant plus. Et en produisant plus, on est donc dans la situation de créer la merde écologique. Donc, je termine par ça, puisque ça va être trop long. Mais donc, cela veut dire pour moi que se battre contre l'effondrement, c'est se battre contre le capitalisme, c'est se battre pour une autre société qu'on appelle l'écosocialisme.
Merci, Michel. Et Olivier?
Une femme d'abord.
Mais il n'y a pas. Pour le moment.
Évidemment.
Arrêté juste au moment où je trouvais le plus passionnant, c'est-à-dire que tu commençais à dire que la stratégie de l'unité avait failli. Je suis d'accord qu'il faut penser en termes d'un archipel d'actions de toutes sortes à tous les niveaux. Je crois que c'est ce qu'on voit et je suis d'accord aussi. Mais après, tu as dit qu'il faut penser en termes d'une stratégie générale qui pourrait un peu coordonner tout ça, et là je serais super d'accord, mais je ne vois absolument pas de quoi il s'agirait et surtout qui pourrait le mettre en avant. Nous, avec Winfrey, par exemple, on est dans un réseau européen de désobéissance civile, mais on, à côté il y a Extinction Rebellion, un autre, là il y a le Climate Strike des étudiants, et déjà là, et il y a encore Earth Strike qui commence. Déjà là, on n'arrive pas vraiment à se coordonner, sans parler d'avoir une stratégie plus générale. Donc j'aimerais bien qu'on utilise un peu plus là-dessus.
Andrea? Excuse-moi, Andrea, on passe la parole à madame. Andrea.
Oui, par rapport au réchauffement climatique, évidemment, je crois que tout le monde qui est ici est entièrement d'accord que c'est un problème majeur auquel l'humanité est confrontée. Et je crois qu'on est aussi d'accord que ce réchauffement climatique est en lien avec l'économie capitaliste. Maintenant, par rapport à la projection, c'est clair, s'il n'y a rien qui change, c'est la catastrophe plus ou moins rapidement. Mais comme nous savons, bah, effectivement, on est dans un système complexe. Et il va y avoir des réactions. Quelles vont être ces réactions? Il y a des réactions décidées, et puis il y a des réactions qui surgissent. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il va y avoir des réactions. Et là, je reviens à une notion qui me semble manquer, pas simplement, c'est la notion de dialectique. Il y a une dialectique entre l'ensemble de l'humanité et comme elle réagit par rapport au réchauffement climatique, mais il y a aussi une dialectique au niveau du capitalisme entre les représentants du capital et les représentants du travail. Et là, ce qui me gêne, c'est que les représentants du capital sont présentés régulièrement comme des gens complètement bobins. Ils ne vont rien changer. Alors la seule chose qu'ils vont faire, il y a quelques milliardaires qui vont se retirer quelque part aux États-Unis, qui vont construire un microsystème. Non, les représentants du capital, ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Bien sûr, ils veulent se sauver eux-mêmes. Mais eux, ils veulent sauver le système. Ils veulent sauver le système. Et pour cela, ils réfléchissent. Ils vont prendre certainement des mesures. Et là, je reviens sur une notion de Gortz qui parle déjà des années 70 d'écofascisme. Et je crois que c'est une notion qu'il ne faut pas sous-estimer. Que le capitalisme, lui, il va se défendre. On a vu ça dans l'histoire du capitalisme. Même après, il y avait deux guerres mondiales, le fascisme, le stalinisme, avec 100 millions de morts, le capitalisme a survécu. Pendant certains moments, la Russie et la Chine ont été extraits du système capitaliste. Le capitalisme s'est adapté. Il y a une capacité d'adaptation qui est très importante. Et mon inquiétude, il y a deux inquiétudes. C'est effectivement que les mesures qui sont prises vont faire que la population, et surtout les couches défavorisées, vont payer un tribut extrêmement important. De toute façon, c'est eux qui vont payer un tribut très important. Mais selon notre mobilisation, les réponses que nous allons apporter, ce tribut sera plus ou moins important. Et ensuite, mon inquiétude, c'est la réaction de la bourgeoisie. La réaction des représentants du capital, ils ne vont pas laisser couler le système. ils vont se défendre et ils sont capables de prendre des mesures extrêmement draconiennes et totalement liberticides dans l'intérêt évidemment de la reproduction du système capitaliste, mais pas dans l'intérêt de l'ensemble de la population.
Merci.
Moi j'ai une question qui rejoint un peu le discours de monsieur. Donc, je vous remercie pour toute la présentation, l'aspect pédagogique sur l'effondrement, le réchauffement climatique. Après, sur la dernière partie de votre discours, il y a d'après moi un point que vous n'avez pas abordé. Vous avez parlé de l'aspect militantisme, l'activisme, aussi la politique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Mais si on veut être concret, il faut parler aussi d'engagement, en termes d'engagement financier, si on veut changer les choses. Et il y a des projets qui ont été proposés par Pierre Larouturou, par exemple, en France, qui s'appelle le pacte finance climat, ou aux États-Unis le Green New Deal, où en fait, c'est des projets qui nous parlent de changer le système, mais avec derrière des appuis financiers. Pierre Larouturou, il parle de 1 000 milliards d'euros par an, rien que pour l'Europe. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec lui pour dire que tout ce qui est zadiste, désobéissance civile, c'est par rapport à la gravité du problème, c'est peanuts en fait, c'est inefficace, il faut vraiment changer de braquet, et là il faut parler de vraiment d'engagement financier au niveau des États, au niveau des banques centrales. Donc c'est au-delà de la politique, parce que là on parle vraiment de la monnaie, donc c'est toute la conception en fait de notre société qui est tournée vers l'argent pour essayer de compenser l'effondrement, le réchauffement climatique. C'est au-delà de la démocratie, c'est au-delà de la politique en fait, c'est beaucoup plus englobant. Est-ce que vous pourriez nous donner votre opinion sur cet aspect-là? Donc là, c'est un aspect quantitatif. On n'est plus dans le développement des qui est responsable de quoi, est-ce qu'il y a une coordination globale qui est possible. C'est vraiment une question d'engagement, de volonté d'engagement financier.
Il y a encore deux éléments de parole et après on arrête, ils répondent. Et vous, voilà.
Moi, c'est plutôt pour informer d'une action écologiste et aussi anticapitaliste facile à faire, que tout le monde peut faire rapidement. Il existe un moteur de recherche nommé Ecosia, qui consacre 80% de ses bénéfices à la plantation d'arbres à travers le monde. Seulement, ils en sont à 52 millions d'arbres plantés. En plus, ils ne collectent pas comme Google de données pour les informatiques, de données sur vous pour les revendre, donc votre vie privée est préservée. Il est facile à installer sur les ordinateurs ou les iPhones. Vous pourriez utiliser ce moteur de recherche à la place de Google ou Yahoo et en informer sur une personne que vous pouvez. Le monde entier l'utilisait, il y aurait des milliards d'arbres plantés chaque année.
Merci beaucoup. La dernière prise de parole, on arrête pour le moment.
Alors, je suis Helmut, je suis hollandais, et mon slogan, c'est normalement, j'ai un problème pour chaque solution. Maintenant, j'ai des solutions pour les problèmes. Et puis ça, c'est nouveau pour moi. Alors, vous avez parlé de la désobéissance. Moi, je vais aller dire qu'il y a aussi l'obéissance de ceux qui sont au pouvoir et celles qui sont au pouvoir. Parce que si l'on prend notre constitution suisse, les lois et la constitution genevoise, le livret avec la constitution suisse, elle est rouge. Et puis quand on lit le détail qui est là-dedans, on peut déjà exiger aux gens qui sont là sur la colline et bien sous la coupole, la berne, de faire ce qu'il est dans la Constitution. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est quand on est ici ensemble, on s'entend tous, on est dans le même groupe, n'est-ce pas? C'est presque prêcher pour ceux qui sont convaincus. Allez voir dans les autres événements où j'étais aujourd'hui, dans la chambre de commerce chinoise ce matin, où on a aussi parlé du futur. Et puis là, avec la dame Alexandra Litz, ça m'étonnait, dans deux secondes, elle était convaincue qu'on ne peut pas continuer à croître. Alors quand on va là-bas, on se mélange avec les élites, on peut faire quelque chose. Et puis on peut distribuer la parole. Moi, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Réseau. Oui, je ne suis pas francophone, c'est un problème. Alors, Réseau Objection de Croissance. Et puis on a une séance chaque 8 du mois. Tout le monde est bienvenu à la coordination. Et puis ça a indiqué sur le site décroissance.ca. Je ne suis pas venu pour faire la propagande pour ça, mais je suis venu pour encourager à faire quelque chose.
Merci beaucoup. Corinne, ça va y aller ?
Ouais, je vais. Enfin, du coup, il y a pas mal de questions. Je vais essayer d'être brève sur la question. Du coup, je vais les prendre dans l'ordre. Hein. J'essaye parfois de faire des regroupements, mais là, j'y arrive pas. Sur la question de l'effondrement et de la disparition totale de l'espèce humaine sur Terre, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de scientifiques ou d'experts ou de chercheurs qui émettent cette hypothèse-là. C'est-à-dire que l'un des plus radicaux, c'est un monsieur qui s'appelle Schellnhuber, qui est le fondateur du Potsdam Climate Institute et qui en a d'ailleurs été débarqué pour cause d'alarmisme. Et lui, qui est la frange vraiment la plus radicale ou pessimiste, je ne sais pas comment on dit, parle d'une diminution drastique de la population à 1 milliard d'habitants. Ce qui, déjà, si on veut bien là aussi sortir des chiffres et considérer ce que ça veut dire, est déjà parfaitement saisissant, quoi. Voilà. Après, bon, sur les bouquins de Pablo, moi je trouve que c'est bien, ça a joué son rôle à un moment donné. Je pense que c'est bien si on résume pas tout ce qui se dit. Et tout ce qui se réfléchit, et tout ce qui se pense, et tout ce qui s'étudie sur ces questions d'effondrement à l'œuvre de Pablo Servigne, en fait. Parce que je trouve qu'il a été très utile, et qu'il l'est encore, bien sûr, hein, je ne suis pas en train de le jeter à la poubelle, le pauvre. Mais en tout cas, il y a une pensée qui est quand même assez riche et multiforme. Et donc, je ne souhaite pas commenter particulièrement les écrits de Pablo Servigne. Après, sur qui coordonne et qui archipélise tous ces îlots de résistance, je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui coordonne. Et je ne crois même pas que ça passe par des réunions de coordination comme on en a tous connu, comme on en connaît tous encore aujourd'hui. Il y a une coordination climat, par exemple, en France, où se réunissent effectivement toutes ces orgas, Alternatiba, NVCOP 21, Amis de la Terre, etc. Je pense que c'est nécessaire pour certaines actions, etc. Mais quand je parle de stratégie coordonnée, je ne parle pas de ce niveau de coordination-là. C'est-à-dire que ce type de coordination, elle est importante quand vous êtes encore sur, justement, cette idée de faire masse et de faire tous la même chose au même moment, au même endroit, souvent. Ce à quoi je pense, moi, est quelque chose de plus diffus et qui n'est pas coordonné en termes de timing. C'est-à-dire que, j'ai pas de réponse toute faite, hein. Je suis comme tout le monde, je suis un peu paumée et j'essaye de réfléchir à ce qui pourrait se passer, mais il me semble qu'on pourrait avoir une diversité de groupes, notamment affinitaires et locaux, comme je le disais, qui se relayent, mais sans forcément se concerter, sur un registre de différentes actions, qui pourrait rentrer dans, mettons, trois catégories, si je reprends mes exemples de tout à l'heure. C'est-à-dire que si le mot se répand à un moment donné, et ça se fait comme toute création de culture, c'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui des choses qui sont en train de s'adapter simplement parce que il y a des articles, parce qu'il y a des conférences, et parce qu'en réalité, même sans se voir et sans se faire des réunions de coordination, on voit bien que les choses, petit à petit, elles se calent et qu'il y a des choses qui commencent à être dans l'air du temps parce qu'en fait, on est en train de construire une culture partagée. Et on pourrait très bien avoir justement, il y a trois registres d'action, les actions qui d'enquiquinement, les actions de préservation de l'existant dont on va avoir encore besoin. Et puis des actions de construction d'alternatives. Ça peut être construire des alternatives et bloquer la destruction. Enfin, il faut trouver quelles sont les bonnes catégories. Et à partir de là, on pourrait très bien imaginer que ces groupes affinitaires, au rythme qui leur convient et sur les registres qui leur conviennent, rentrent en scène. Et après, tout n'a pas forcément besoin d'être écrit et calé. Il y a aussi une intelligence collective à laquelle, dont je crois qu'elle peut se mettre en place toute seule. Et je pense que les personnes, les personnalités, justement, quand je parlais des institutionnels ou des personnalités publiques, des gens qui sont plus médiatiques, etc., en réalité, quand vous êtes en veille et quand vous êtes en lien avec les réseaux et ce qui se passe sur, en termes d'action, vous sentez bien le moment où il y a besoin d'une tribune de soutien ou d'une intervention qui vient enfoncer un clou. Il n'y a pas besoin de s'appeler ou de se faire une réunion. C'est plus à ça que je pense. Mais ça, ça demande de multiplier les échanges, les expressions. Et ça demande surtout d'être d'accord au moins sur le principe et sur l'objectif de cet archipel et de cesser d'être en compétition les uns avec les autres. Et moi, c'est surtout ça pour l'instant mon souci. Voilà en tout cas l'état de mes réflexions par rapport à ça. Après, pour répondre sur... est-ce que l'État et les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a rien à en attendre? Bien sûr qu'il continue à y avoir des choses à attendre, ou en tout cas à les réclamer, plus qu'à attendre. Mais c'est des choses qui, à mon avis, ne seront jamais à la hauteur de la marche qu'il y a à franchir. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des choses, et il faut, quand on peut les obtenir, aller les chercher et aller les réclamer. Mais je crains que ce soit des choses qu'on doive aller arracher et qui ne soient pas à la hauteur. Après, moi, je suis en vraie réflexion par rapport à ça, parce que d'une certaine manière, tout ce qui peut être préservé est bon à prendre. Et si on arrive là, par exemple, il y a eu... voilà, une petite lutte récemment dans une station de montagne contre les baptêmes en hélicoptère. Et de fait, il y a eu une pétition. Moi, je ne suis pas super pétition en général, mais là, il y a eu une pétition et ça a marché. La commune a reculé et a interdit les baptêmes en hélicoptère. Bah super, en fait. Enfin, voilà, moi, je vais pas cracher là-dessus en disant « Ah ouais, c'est une pétition, puis ça ne change pas le monde. » Bah en fait, cool, quoi, c'est déjà ça de moins. Et bon, voilà, donc il y a des choses sans doute à attendre, mais en tout cas, pas des choses qui nous sortiront ni de la crise environnementale, ni de l'urgence sociale, quoi, de toute évidence. Après, bon, sur les questions d'écofascisme, oui, clairement, c'est une autre possibilité, et ça rejoint un peu ce que... je voulais dire quand je parlais des dystopies et des films d'anticipation des années 70 et de ces sociétés à deux vitesses. C'est-à-dire que concrètement, on peut aussi avoir un scénario où effectivement, il ne reste plus grand-chose, mais ce plus grand-chose est accaparé par une petite oligarchie qui met en situation d'esclavage ou en tout cas de conditions de survie le reste de l'humanité. Voilà, il faudrait, enfin voilà, du coup, il faudrait plus de temps pour le développer, mais je pense effectivement que c'est une des possibilités dans les différents scénarios. Et quant à la réaction de la bourgeoisie et aux mesures contre-révolutionnaires et liberticides, bah pour le coup, on n'a même pas besoin d'attendre l'effondrement, hein, parce que franchement, je vous assure que ce qui est en train de se passer en France avec le gouvernement Macron commence à devenir vraiment très 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 inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu que là, les forces militaires de l'opération Sentinelle, qui est l'opération antiterroriste en France, vont être mobilisées samedi prochain pour le prochain acte des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on en est au point où on va avoir l'armée face à une partie de la population, ce qui, dans l'histoire, n'est quand même pas arrivé si souvent que ça, et fait un peu froid dans le dos, assorti des dernières mesures d'interdiction de manifester qui peuvent être... prise par les préfets sur des suspicions de troubles à l'ordre public. Enfin voilà, tout ça, enfin, honnêtement, on est quand même vraiment en train de verser là dans un régime autoritaire avec des régressions extrêmement inquiétantes et pour le coup extrêmement liberticides. Sur la question du pacte finance-climat d'aller chercher de l'argent et d'investir au niveau européen, au niveau des États et de la Banque centrale, moi, j'ai rien contre ça, mais pour moi, j'ai du mal à me dire que c'est ça le problème aujourd'hui, parce que L'argent, en fait, en réalité, ça fait quand même un bout de temps qu'on sait qu'il existe et qu'on sait à peu près où aller le prendre. Après, il y a le pacte finance-climat, il y a eu d'autres choses avant. Il y avait eu tout un travail de fait aussi autour de la question de la révolution fiscale. Tous les endroits en fait, où on peut aller récupérer de l'argent, notamment par rapport à l'ISF, par rapport à un certain nombre de niches fiscales qui en plus sont totalement anti-écologiques, par rapport à la question des produits de grand luxe, l'utilité sociale de la production qui pourrait être taxée différemment, de réduire le différentiel entre les impôts sur le travail et les impôts sur le capital. Tout ça, c'est des choses qu'on a tous beaucoup travaillé en fait ces dernières années et on sait en gros où aller prendre l'argent, c'est pas ça le souci.
Le montant est vraiment différent.
Il est différent, mais aussi parce que c'est au niveau européen, si j'ai bien suivi. Mais moi, ma question, en fait, elle n'est pas tant par quel mécanisme ou où on trouve l'argent, et je fais confiance aux économistes hétérodoxes pour nous aider sur cette question. Ma question, elle est plus, c'est par quel miracle, tout d'un coup, on met d'accord l'ensemble des États membres de l'Union européenne, qui sont tous à droite et libéraux, pour mettre ça en œuvre, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, ça fait quand même un bout de temps que les solutions, en gros, on les a. Après, il reste des petits trucs techniques à régler, mais sur lesquels, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Notre problème, ce n'est pas de trouver les solutions, c'est de faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre, en fait. Et du coup, ça rejoint un peu une autre intervention sur le fait de dire, j'ai noté, il faut exiger qu'ils fassent ce qui est dans la Constitution suisse. Mais on est tous d'accord avec ça. Notre question, c'est comment on fait pour les obliger à le faire, quoi. Et c'est ça, toute la question. Et on voit bien, en France, l'affaire du siècle, c'est 2 millions de signataires. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est du jamais vu. Et tous, ça fait des années qu'on milite en se disant, purée, le jour où on aura 2 millions de signataires sur une pétition, le jour est venu. Et en fait, la réalité, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être des dizaines de milliers ou des centaines de milliers dans la rue. On peut être 2 millions à signer un truc. Et en fait, il ne se passe rien. Donc en fait, moi, c'est ça mon souci. C'est que comment on fait pour que ça bouge, quoi. Et à un moment donné, je suis bien obligée de me dire, comment on fait pour que ça bouge? On bouge nous, en fait, et on essaye de trouver des terrains, des modes d'action sur lesquels on n'a pas besoin, en fait, justement, de demander à quelqu'un d'autre. Je dis pas, c'est pas mon idéal, hein, c'est pas pour ça que je me bats depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, en fait, je ne vois pas d'autres possibilités qui permettent assez rapidement d'avoir, je ne dis pas d'inverser le cours des choses ou d'éviter l'effondrement, hein, mais au moins d'avoir un impact direct et d'éviter de la souffrance, en fait. Voilà, il est là principalement mon propos.
Est-ce qu'il y a encore d'autres... Merci. Il y a encore d'autres questions. On arrête là, ensemble.
Tous ensemble.
Didier.
Moi, j'ai une question toute simple, parce que j'ai pratiquement rien vu dans la presse tous les jours d'ici. Quel est l'état du mouvement climat en France et des manifestations ce week-end?
Sébastien, une arrête. Dis-moi.
Juste, puisque Corinne ne voulait pas commenter les travaux de Servigne et Consort, je vous signale qu'on a parmi les brochures qu'on a mis sur la table, celle qui reste, un article de Daniel Tanoureau qui était plutôt positif sur les deux premiers bouquins, et c'est sur le troisième, c'est un peu durci, donc c'est intéressant aussi de lire son avis sur ce thème-là. Et puis d'autre part, par rapport à l'intervention d'Edmond tout à l'heure, signaler aussi, je ne crois pas qu'ils nous ont amené, mais l'excellent journal des camarades vaudois de Rock, qui s'appelle Moins. Puisqu'on dit qu'on travaille tous dans des chapelles, etc., on essaie effectivement de communiquer au maximum dans les groupes d'action et de réflexion. Voilà. N'hésitez pas à vous servir.
Voilà. On lui donne la parole à Corinne, comme ça, pour répondre à Didier.
Du coup, je ne vais pas pouvoir faire une radiographie vraiment exhaustive. En plus, je ne suis pas sûre d'avoir tous les éléments, mais... globalement, sur la question du mouvement climat, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent en ce moment en France. C'est-à-dire que d'abord, on a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont apparus depuis quelques mois. Et voilà, je pense à toute une série de YouTubers, par exemple, qui se sont engagés dans cette bataille-là. La montée aussi en puissance vraiment d'ANV COP21 et de ses actions de désobéissance civique, notamment avec ATTAC et avec les Amis de la Terre. Là, il y a l'arrivée du mouvement Extinction Rebellion qui fait son lancement officiel ce dimanche. Il y a les marches pour la jeunesse qui sont vraiment un nouvel élément et qui ont quand même bien mobilisé vendredi dernier, même si je ne suis pas sûre qu'on soit à la hauteur de ce qu'on a pu voir ici, mais il y a un vrai succès de ces marches de lycéens. Il y a même certaines villes où les images sont vraiment impressionnantes. Moi, j'ai vu des images, notamment des vidéos de Nantes, par exemple, où le défilé était vraiment très conséquent. Et si je prends l'exemple, moi, du lieu où j'habite, je suis dans une petite ville de 4400 habitants. On avait 250 lycéens, enfin collégiens et lycéens, mobilisés toute la journée, sans avoir un seul enseignant en grève, quand même. Donc, c'est loin d'être évident. Et c'était la première fois. Donc, il y a quand même des signaux qui sont assez forts de ce côté-là. Et il y a surtout, moi, je discute beaucoup avec les gens du mouvement climat. Il y a surtout en ce moment une grosse... pas remise en question, parce qu'il ne s'agit pas de dire que ce qui était fait avant n'était pas bien, mais il y a une vraie réflexion là en profondeur sur les modes d'action et un peu ce qu'on a parlé, enfin voilà, cette question de la culture du nombre, cette question de la panoplie des modes d'action, cette question de finalement si on arrive à avoir 2 millions de signataires sur une pétition et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait le coup d'après ? Enfin, toutes ces questions sont quand même des questions qui sont très largement débattues au sein du mouvement climat et qui viennent bousculer et percuter tout le monde et qui du coup provoquent des discussions et des réflexions qui sont quand même assez riches. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on rentre vraiment dans une période de mutation assez profonde, en fait, de ce mouvement. Voilà.
Merci Corinne, merci beaucoup.
Merci.
J'espère que vous passez la soirée avec nous et avec Corinne, c'était intéressant. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans toutes les mobilisations climat qu'il y aura pas mal prévues. On va voir ce qui se passe ce soir à l'université. Et en tout cas, le groupe écosocialiste vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence sur l'écoféminisme en juin. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Ah, et notre ami Gilles nous attend à Lausanne ce week-end et il y a une manif mardi prochain contre l'histoire des spéculateurs et des matières premières. Merci d'être venu, Guillaume. Thank you.